Je pense que quand je vais annoncer le sujet sur lequel je me suis arrêté, vous n'allez pas être d'accord. Mais on va quand même cheminer ensemble, hein ? On va essayer d'avancer et d'essayer de voir un peu mieux ce que la Bible nous dit. Alors, vous allez certainement comprendre tout de suite en lisant quelques textes. C'est d'abord dans l'Épître aux Philippiens. Au chapitre 3, je vous propose les versets 7 à 16. Mais c'est surtout la dernière partie de ce passage qui nous interpelle aujourd'hui. Ces choses qui étaient considérées comme des privilèges, tous les mérites que l'apôtre Paul pourrait faire valoir devant Dieu, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Un peu plus loin, nous allons lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. D'abord les versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quel beau passage, tellement réconfortant. Mais nous allons continuer avec un complément qui nous permet de peut-être mieux comprendre ce sujet. Au chapitre 5, les versets 7 à 10. C'est lui, donc Christ, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et un dernier passage, mais nous allons en citer d'autres sur le sujet, je vous propose dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, de lire les versets 2, 3 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ils interpellent, je trouve, ces passages de la Bible qui parlent de la perfection, comme si c'était possible sur la terre. Difficile de suivre ces textes, et d'adhérer à un tel enseignement. Pourtant, ils sont encore plus nombreux que ceux que nous venons de lire, ces passages, pour ne pas les délaisser. Alors l'histoire, ou une partie de l'histoire, pourtant nous montre l'importance de ce point, l'enseignement de la perfection. Une étude sur le sujet de la perfection chrétienne montre que quand ce thème est enseigné et que les chrétiens le prennent au sérieux, cela est suivi de réveil, c'est-à-dire de conversion, d'un nombre de conversions très important. Mais quand l'Église s'accroche au fait qu'elle est une institution centrée sur ses intérêts, quand les luttes interconfessionnelles reprennent le dessus, alors l'Église stagne et même régresse. De même, quand les Églises se focalisent sur les grands débats de société, de sorte qu'on délaisse ce point de la perfection. C'est une analyse qu'a faite un historien sur ce sujet. Quel est le but de Dieu pour ceux qui lui appartiennent ? Jésus termine la première partie de ce sermon sur la montagne qui est si parfait. Par cet ordre, votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Matthieu chapitre 5, verset 48. Difficile quand même d'accepter une telle affirmation. D'accord, c'est un ordre que laisse Jésus, mais comment oser penser que nous pouvons le vivre ? Alors, qu'est-ce que la perfection pour que Jésus nous invite à le vivre ? Qu'est-ce que la Bible entend par cette notion ? Examinons quelques textes pour cela. D'abord pour dire ce qu'elle n'est pas. Alors c'est certain, tout de suite nous avons pensé à cet adage, la perfection n'est pas de ce monde. Alors, merci Seigneur pour ces beaux appels à la perfection, c'est une belle perspective et c'est tout. Merci parce que au ciel, là, on sera parfait. Oui, cela correspond en partie à ce que l'apôtre Paul écrit. Quand viendra ce qui est parfait, ça veut dire aussi dans le ciel avec Dieu, alors ce qui est imparfait disparaîtra. Oui, au ciel et rien qu'au ciel, le péché n'existera plus, les maladies, les égarements, non plus. Alors, cela signifie que cette perfection est différente de l'état de non-péché. Cette perfection dont parle la Bible n'est pas l'absence de péché. Matthieu Lelièvre écrit dans ce sens « Cette perfection réalisable en ce monde n'accepte ni de l'ignorance ni de l'erreur. Ce n'est ni l'omniscience, le fait de tout savoir, ni l'infaillibilité, ne jamais se tromper. » Donc la Bible, à l'évidence, n'en parle pas comme une vie sans péché. Je pense encore à ce que les chrétiens de l'église de Corinthe sont appelés par Paul comme des enfants, alors que, vu leur connaissance, leurs dons multiples, ils devraient être des adultes spirituels. Ce n'est donc pas une connaissance intellectuelle ou théologique de la Bible qui rend parfait. Ceux qui en savent bien plus que moi ne sont pas plus, pour autant, parfait. Ou encore, ce que nous avons lu dans l'Épître aux Philippiens. L'apôtre Paul dit, non, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais voilà que juste deux versets plus loin, il affirme, nous tous qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, à savoir courir vers le but. Le déjà et le pas encore. Parfait ou pas. Il y a donc deux niveaux différents sous un seul mot. Qu'est-ce donc alors que cette perfection ? Eh bien, disons que ce mot peut être traduit de différentes manières. Et quand, par exemple, Paul dit « Je n'ai pas encore atteint la perfection, je ne suis pas encore parvenu au but », il donne les deux notions là, de ce qu'est la perfection. Parce qu'on peut traduire ce mot par la fin, le but, l'accomplissement, l'achèvement. Il y a derrière une idée de maturité, à l'opposé d'être des enfants. Être parfait, c'est donc être arrivé à maturité. Dans ce sens, être parfait n'est plus quelque chose d'irréalisable, mais quelque chose de très concret. C'est le fait de parvenir au but que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. Et ça, c'est donc différent que le fait de vivre sans erreur, sans péché. Jésus n'a jamais péché. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Il était donc parfait selon notre première conception de ce mot. Mais il n'est arrivé à la perfection, est-il dit juste après, qu'à la croix. Et après, Dieu a élevé à la perfection, par ses souffrances, celui qui devait ouvrir le chemin du salut. Ou encore, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Christ a été amené à la perfection en ce qu'il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert ». Il y a une autre notion là que le fait d'être sans péché, ce que Jésus a été et qui est affirmé. Jésus est parvenu à la perfection à la croix en ce qu'il a accompli le but de sa venue sur la terre. Il est mort à la place des êtres humains. L'auteur donc souligne plus le cheminement et le but que Jésus a atteint et moins le fait qu'il n'a jamais péché, même s'il le dit par ailleurs. Vivre la perfection selon Dieu, c'est penser, parler, agir selon la volonté de Dieu. C'est vivre le but que Dieu a pour nous. C'est cela, arriver à la maturité. Et cette maturité spirituelle se concrétise dans le comportement, à travers l'obéissance et la consécration à Dieu. Cette maturité selon Dieu est différente donc de celle à laquelle nous pensons. Elle n'est pas liée à l'âge. Comme si un chrétien devait attendre d'avoir 50 ou 70 ans pour être parfait. Et quand on y est à cet âge-là, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire. Selon notre première conception, être sans péché. Ou alors, de le prendre sur le plan physique. Je ne suis pas parfait. Et pourtant, Dieu me considère peut-être, même avec mes faiblesses, mes handicaps, comme parfait. Un exemple de la nature. Un bourgeon est parfait en soi. Et un fruit est parfait, mais tous les deux, quand ils sont à la bonne période prévue pour la variété en question. Il y a des roses de Noël qui sont parfaites quand elles fleurissent à Noël et non pas pendant l'été. Un jeune chrétien se développe différemment d'un chrétien qui a 40 ans de vie avec le Seigneur. Mais il est parfait, selon Dieu, quand il accomplit le plan de Dieu pour lui à ce moment-là. Le comportement révèle donc cette perfection maturité. C'est Jacques qui appuie sur ce point. Par les œuvres, la foi d'Abraham fut rendue parfaite. C'est évident. Ce ne sont pas les œuvres qui assurent le salut, mais par leur cohérence avec la foi intérieure, elles l'accomplissent. Elles rendent la foi parfaite. Mais Jésus, en parlant de la perfection, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, montre que ce ne sont pas seulement les actes qui le sont. Et il montre que ce sont les racines des actes, les pensées, qui doivent être pures, consacrées à Dieu aussi. Et cela aussi parle de perfection, de totalité, de globalité. Je vous propose maintenant quelques signes dont parle la Bible, qui révèle cet accomplissement, cette maturité, cette perfection dans la vie du chrétien. Les adultes, dans l'original, le mot dans le grec c'est les parfaits, prennent de la nourriture solide, pas de la blédine comme les enfants. Comment cela se manifeste ? Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux chapitre 5. Les chrétiens adultes, donc, savent discerner d'une manière juste. Les chrétiens mûrs sont ceux qui ont un jugement sûr. En écrivant aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul leur dit en quoi il les considère comme des enfants, malheureusement. « Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. » Avant ce texte et après, Paul insiste sur le fait, l'importance d'édifier les autres. Celui qui cherche avant tout à s'édifier lui-même, même à travers des dons qui paraissent très spirituels, celui-là fait preuve de manque de maturité. Et cela à travers tous les dons. Au contraire de rechercher avant tout l'édification des autres, l'intérêt des autres. Cela est un signe de cette perfection maturité. Chercher l'intérêt des autres avant le sien, en fait, c'est cela l'amour. Et la dimension suprême de la perfection maturité, disent plusieurs textes, c'est l'amour. Par-dessus tout, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour selon Dieu n'est donc pas du sentimentalisme, mais il s'exprime à travers la recherche de l'intérêt de l'autre, à travers une écoute vraie, à travers le désir de l'aider, lui, de lui faire du bien, de lui pardonner. Et cela parle plus donc de cette perfection de l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il se manifeste pleinement parmi nous, dit l'apôtre Jean. L'égoïsme, l'égocentrisme, fait de nous des bébés spirituels. Dans l'amour, dit l'apôtre Jean, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la perfection, à sa pleine maturité. Quand Jésus dit « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait », il le dit en conclusion de tout ce passage où il parle de l'amour profond, même pour les ennemis. La capacité à obéir est aussi un autre de ces signes. Le but d'Épaphras, il n'y a pas quelqu'un qui en a parlé récemment ? Non ? De quoi tu as parlé, Daniel ? D'un autre ? Barnabas, d'accord. Épaphras, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, son but c'est de prier pour que les chrétiens de Colosse tiennent bon comme des parfaits, comme des adultes, dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Donc l'obéissance à ce que Dieu demande, ainsi que la persévérance, révèle la maturité spirituelle. Jacques aussi parle donc de la perfection maturité en rapport avec la persévérance. Vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, à l'état d'homme parfait. Et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Il y a donc cette notion-là que Jacques nous dit qu'il nous faut viser et que nous pouvons vivre. Face aux difficultés de la vie, celui qui est adulte les surmontera et saura en tirer les côtés positifs. La persévérance, c'est la foi vécue dans la réalité de la vie, souvent éprouvante. Mais là aussi, le but de Dieu est la perfection du chrétien. Et Jacques donne un autre signe de la perfection, c'est la maîtrise de la langue. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. chapitre 3, verset 2. Donc, en rapport avec les paroles, quelqu'un conseillait ceci. Consacre tant d'heures à ton perfectionnement qu'il ne te reste plus de temps pour critiquer les autres. C'est-à-dire, pour éviter la tentation de critiquer les autres, cherche pour toi-même là où tu dois progresser. Et puis, dernière partie, ce qui nous importe, c'est peut-être surtout, à part le fait de savoir qu'est-ce qu'il nous faut viser, de savoir par quels moyens nous pouvons y arriver. Quels sont les moyens que nous donne la parole de Dieu pour vivre cette perfection ? Le but de Paul est de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte, dans son union avec le Christ. C'est la communion avec Jésus-Christ qui permet cette perfection, d'arriver à ce but, cet accomplissement. Nous pensons qu'il nous est impossible de devenir parfait par nous-mêmes. C'est la réalité. Mais ce n'est que dans notre communion avec le Seigneur que cela peut devenir réalité. Gardons les yeux fixés sur lui, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Lui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Ouf! C'est l'œuvre du Seigneur qui veut l'accomplir en moi. Quelle est déjà la condition dans ce verset ? Parce qu'il y en a une. Hein. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Il est intéressant de voir l'enseignement de cet épître aux Hébreux montrer l'aspiration depuis toujours de l'être humain à la perfection, qui ne se satisfait pas d'une vie de médiocrité. Mais il le fait en s'appuyant, malheureusement, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sur ses propres forces, en cherchant à accomplir pour Dieu des actes. Et il est dit, « Or, la loi n'a rien amené à la perfection. Chercher à obéir à la loi de Dieu n'amène qu'à constater son incapacité pour le vivre. » La loi de Moïse ne peut en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. C'est Christ et lui seul en nous qui peut nous faire grandir jusqu'à une maturité spirituelle qu'il veut nous donner en vivant dans la communion avec lui. Celui qui garde sa parole, dit Jean, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Nous n'avons donc pas à chercher à être parfaits par nos efforts, mais à écouter, à garder la parole de Dieu. Le résultat est alors cette maturité, perfection. Et puis ce que Paul dit aux Éphésiens en particulier, aux chrétiens de cette église d'Éphèse, c'est que Dieu accorde à son église différents ministères pour faire croître jusqu'à une pleine maturité, jusqu'à la perfection, les chrétiens. Son but est que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, parfait. Fait, pas comme les camemberts, hein, on est d'accord, mais plutôt comme les fruits arrivés à une maturité qui les rend délicieux pour leurs propriétaires et pour ceux qui les mangent. Si l'élément essentiel pour connaître cette perfection est la communion avec le Seigneur, l'Église participe à ce but. Je reçois des autres pour grandir spirituellement et je participe aussi un peu à cela pour les autres. Et puis Jésus donne la clé pour connaître ce but parfait en montrant au jeune homme riche qui venait à lui que ce n'est pas avant tout en obéissant aux commandements qu'il peut devenir parfait, mais en se donnant entièrement à Dieu. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. C'est moins une œuvre à accomplir pour être parfait qu'une attitude à manifester, la consécration, se donner entièrement à Dieu. Le chrétien adulte vit ce don complet à Dieu en étant prêt à lâcher ce qui le possède. Pour cet homme, c'était ses richesses. Paul invite le chrétien à, dit-il aux chrétiens de Rome, à offrir son corps, ça veut dire tout son être, comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, et ainsi il pourra discerner ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Mathieu Lelièvre définit ainsi cette perfection en disant « La perfection dont l'homme est capable pendant qu'il habite ce corps corruptible, c'est l'obéissance à ce commandement miséricordieux. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Et c'est aussi « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aspirons donc à vivre non une vie de médiocrité ou de satisfaction facile, mais cette perfection qu'il veut nous offrir. Je vais citer une phrase qui interpelle. C'est Chateaubriand qui disait « Sois semblable à Dieu, c'est le commandement de l'humilité. » Pourquoi cela ? Parce qu'autrement, eh bien, je suis ma propre fin. Quelque part, je prends la place de Dieu. Et puis, le fait de ne pas chercher à vivre comme Dieu me fait rester avec mes imperfections qui deviennent la norme de ma vie. L'humilité me pousse à vouloir, à tout faire pour être comme mon maître. Jésus, après avoir parlé de l'union avec lui dans l'épître, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, c'est le dernier message que Jésus laisse à ses disciples avant de mourir. Après avoir parlé de l'union avec lui, après avoir parlé de l'amour reçu de lui et vécu envers les autres, ainsi que de l'obéissance à sa parole, il termine en disant « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse ». Vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite, déjà sur terre.